Il fallait bien rentrer de vacances à un moment. Je dois dire que ça m'a fait du bien. Je me sentais un peu plus sereine. Mais c'était sans compter l'entretien annuel qui arrive avec Marc, mon boss. En fin de semaine, je saurai si mon travail a payé, au sens propre comme au sens figuré. Je ziote cette promotion depuis un bon bout de temps, au moins 2 ans. C'est impossible que je l'aie pas d'ailleurs. Je ne vois personne d'autre que moi qui pourrait prendre le poste. Bien sûr, je ne suis pas la seule à le vouloir, et les autres sont aussi compétents, voire bien plus. Mais mon profil tape dans le mille. Marc doit le savoir, enfin, j'espère. Ça fait une semaine que je carbure encore plus que d'habitude, que j'essaie de me concentrer à 100% quand on me parle ou qu'on me demande quoi que ce soit. Je me sens comme un capitaine de navire en pleine tempête. Je tiens la barre et j'attends que ça se calme, Moussaillon. Vendredi, 16h. Quand je sors du bureau de Marc, j'ai le mascara qui coule encore. Les traits tirés et je sais sans me regarder que je fais peine à voir. Quand je pense que j'étais toute pimpante tout à l'heure en y entrant. Oh, quelle conne d'avoir pu imaginer une seconde que j'aurais cette promotion. Je n'ai même pas de prime cette année. Pas de prime, non. Mais comme si ça suffisait pas, je me suis ridiculisée devant mon patron. Et sûrement toute l'agence qui a dû tendre l'oreille pendant toute la durée de mon entretien raté. J'entends encore distinctement la voix de Marc qui m'annonce « Ah non, on a choisi Laura pour ce poste, comme tu n'étais pas très en forme cette année. » Cette phrase reflète à elle seule tout ce que je craignais. Ne pas être à la hauteur. Mais ça aurait pu s'arrêter là. Ouais, Amy, t'aurais pu fermer ta grande bouche. T'aurais pu te stopper net après. Ah d'accord, et ça aurait suffi. On n'en parlait plus. Mais non, il a fallu que tu parles. Et devant la mine désolée de Marc, il a fallu que tu craques, pleures, gênes. Oh, quelle descente aux enfers. Il y a un truc que t'avais pas anticipé, ma petite. C'est l'air désolé de ce mec qui t'a donné ta chance il y a des années. Je me sens tellement mal d'avoir craqué. Quelle tristesse d'en arriver là. Je m'auto-flagelle, je le sais. Qu'est-ce que je m'en veux? Pourtant, dans cette histoire, s'il y a bien une chose à laquelle je m'attendais pas, c'est la réponse de Marc quand j'ai enfin ouvert les vannes. Après des mois de combat, j'ai réussi à sortir les quelques mots qui me séparaient de la vérité. J'ai osé. J'ai pris ma plus petite voix et j'ai dit « Tu sais, je suis en dépression. » Il m'a regardé avec attention. Je sentais ses yeux posés sur moi. Alors j'ai rajouté « Je suis désolée. » Comme si c'était ma faute. Comme si je ne faisais pas que subir depuis tout ce temps ma propre faiblesse. Ça ne m'a pas donné le poste convoité de dire la vérité. Mais quelque part, ça m'a soulagée de lâcher mon secret au milieu de son bureau trop bien décoré. Il a posé une main sur mon épaule. C'était la première fois. D'habitude, ça me dérange ce genre de contact physique, mais là, c'était doux et gentil. Son regard était bienveillant. Mes yeux ont coulé tout seuls et je n'arrivais plus à m'arrêter. Il a compris. M'a remercié de lui faire confiance et de m'être confié. Quelle idée! C'était à moi de le remercier de ne pas me sortir à coups de pied aux fesses. J'ai beaucoup parlé entre 2 sanglots. Puis, je me suis calmée en respirant un bon coup et j'ai attendu, sans oser relever la tête. Tu sais, je m'en doutais un peu ces derniers temps. On peut trouver des solutions pour t'aider à aller mieux, il m'a dit. J'ai trouvé ça incroyable et humain. Comme quoi, ça existe encore. Il m'a reproché de n'avoir rien dit avant, parce qu'on aurait pu m'aider, parce qu'on aurait pu aménager mon temps et mon environnement de travail, parce que ça aurait facilité la communication. Quand il a dit tout ça, bien sûr que ça m'est apparu comme évident et facile, mais ça ne l'était vraiment pas. Oh, quelle cruche. Je ne suis pas repartie avec ma promotion, mais j'ai quand même l'impression d'avoir gagné quelque chose. L'appartement me semble être un véritable havre de paix ce soir. La lumière est belle, le printemps va pointer le bout de son nez et avec lui les journées rallongent. L'entretien avec Marc m'a vidée, physiquement et mentalement. Je suis complètement crevée. Je crois que je pourrai pas me coucher de suite. Ce serait une série et des pâtes au fromage. J'ai une flemme monumentale de me faire quelque chose de plus élaboré. Sans compter que j'ai bien mérité un plat on ne peut plus réconfortant. J'attrape mon carnet sur la table basse. C'est parti pour coucher tout ça sur le papier. Je pense que maintenant j'ai compris qu'à trop garder tout ce que je pense et ressens à l'intérieur de moi, ça va finir par me ronger vivante. Mon petit journal. On n'est pas sortis de l'auberge, toi et moi. Je te le dis, Marc sait tout maintenant. Tout le monde sait que je vais mal. Et ce soir, je prends vraiment conscience de la fragilité du processus par lequel je passe. Je ne sais pas comment j'ai pu penser que d'un coup ça irait mieux, que j'étais tirée d'affaire. Je ne le suis pas, de toute évidence. Mon numéro de Calimero à l'agence m'a bien remis les idées en place. Je ne suis pas guérie. La psychologue m'avait prévenue. Ça va être un long chemin, Émilie. Il va falloir être patiente. Elle me répète ça presque chaque semaine. Elle tourne en boucle. Mais à force de l'entendre, j'ai cessé de l'entendre. Et aujourd'hui, bam, je me reprends ça dans les dents. J'ai l'impression d'avoir tendu les bras vers une corde solide et je me retrouve accrochée à un roseau. Alors certes, il plie, mais il ne rompt pas. N'empêche qu'il plie dangereusement quand même. Et j'avais oublié. Ce soir, je me sens entre deux eaux. D'un côté, soulagée d'avoir craché le morceau. D'un autre, triste et fatiguée d'en être presque au même point qu'avant. Les pattes sont prêtes et je les recouvre d'une épaisse couche de gruyère râpée. Un verre d'eau fraîche, mon antidépresseur et une série qui me fait rire. Allez ma vieille, on va te requinquer. Sur la table basse traîne le roman de Léa Herbreteau, Les contours de la mélancolie. Un titre magnifique pour parler du désespoir. Est-ce que c'était le meilleur moment pour lire ce roman? Pas sûr. Est-ce que ça me fait pleurer? Tout à fait. Mais quelque part, ces mots me libèrent un peu. Elena, c'est moi. La petite nana enfermée dans son appart qui n'arrive plus à remonter la pente. Dedans, l'auteur a habilement personnifié la dépression en une petite vieille qui débarque et campe chez elle. Elle tricote 24 heures sur 24 et lui refile des idées noires. C'est un peu ça, c'est vrai. Et si ma dépression à moi était aussi une petite vieille, à quoi elle ressemblerait ? En fait, je commence à me rendre compte de l'ampleur des dégâts. Il y a quelques mois, j'aurais simplement eu honte d'être encore malade, malgré le traitement et la psychothérapie que je suis assidûment. Mais aujourd'hui, j'ai justement réussi à prendre du recul sur tout ça et je vois enfin le chemin parcouru. J'en suis pas encore à me féliciter, hein, mais en lisant ce livre, je vois bien comme je m'aime encore un peu. J'ai encore un poil de bienveillance pour moi et ça me raccroche à la vie. Le lien est là, fragile mais ténu. Je vais y arriver.